Et vraiment, je me suis préparée au pire et en fait, ça s'est très bien passé parce qu'on est arrivé. D'abord, les soldats ont été très très gentils. Ils n'ont absolument, ils m'ont pas du tout été brutaux, même très respectueux. Et on est arrivé dans leur camp qui était en fait un village dans la brousse. Et tout le monde a été extrêmement gentil. On m'a donné une petite case pour moi. On m'a vraiment soignée, choyée, je dirais même. Donc là, ça a mieux été. Bon, le lendemain, j'ai eu très peur à un moment donné parce que je me suis retrouvée face à tous les gens du village. Et bon, on m'avait pas dit ce que c'était. Il y a eu un discours un peu politique assez violent où on attaquait aussi la Croix-Rouge et notre action, etc. Et je me suis dit, bon, tout d'un coup, je me suis dit, ils vont faire un espèce de procès ou je sais pas quoi. Enfin, je repensais à des tas d'histoires dont j'avais lu le compte-rendu dans les journaux. Et là, j'ai recommencé à avoir peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Puis bon, petit à petit, les jours passant, je me suis rendu compte que je pouvais leur faire confiance. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant je choisis mon camp. Ça s'est passé dans une zone où nous devions traverser une zone en fait très stratégique qui était tenue par l'armée gouvernementale. Et à cet endroit-là, je savais que si on tombait dans une embuscade de l'armée gouvernementale, ça serait vraiment très très violent. Donc je me suis dit, moi, il faut que je choisisse mon camp, parce qu'au moment où on tombe dans l'embuscade, il faut que je sache de quel côté je pars. Et comme je connaissais déjà la guérilla depuis quelques jours, je m'étais rendu compte qu'ils me traitaient bien, je ne savais pas très bien pourquoi, mais enfin, ils avaient l'air plutôt positifs avec moi. Je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, je reste avec eux. J'avais choisi leur camp et je leur fais confiance parce que je les connais. L'armée gouvernementale, il n'y avait pas beaucoup de discipline, ils ne me connaissent pas, ça me faisait très peur. Donc à partir de là, j'aurais fait confiance et ça, je n'ai plus eu peur. À part des moments bon, justement, où il y a un hélicoptère qui nous a survolés, on a dû se cacher. Mais c'était des peurs disons, que je partageais avec les autres. C'était plus cette peur, moi toute seule, face à eux. Donc c'était un peu différent. Et puis, il y a eu encore une peur à la fin. C'est-à-dire qu'après avoir marché 35 jours donc jusqu'au sud de l'Angola, je suis restée dans un camp de prisonniers, mais bon, c'est un mot vraiment un peu dur. Ce serait plutôt un village en brousse. Et à un moment donné, des militaires haut gradés sont venus vers moi pour me faire pression pour que je parle en leur faveur à la presse. Et à ce moment-là, ça a été très dur parce que je me suis rendu compte que malgré toute leur gentillesse, j'étais quand même dans leurs mains et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de moi. Et il y a eu des menaces, bon, pas physiques, mais des menaces psychologiques. On m'a dit qu'il fallait que, suivant ce que j'allais dire et tout, on en verrait quand je serais libérée. Et à ce moment-là, j'ai eu peur parce qu'on m'a préparée à peu près pendant une demi-journée. On a eu des entretiens et tout ça où je me suis défendue. Et à un moment donné, ils m'ont dit, moi, vous réfléchissez et puis votre sort, on verra ce qu'on va faire. Puis un peu plus tard, il y a un groupe de 6 soldats armés qui est arrivé dans ma case, et ils m'ont dit, on vient te chercher. Puis j'ai dit, mais on va où? Ils m'ont dit, on va faire une promenade. Puis là, je me suis dit, bon, c'est fini, ils vont m'exécuter parce qu'ils voient que je ne vais pas collaborer. Et là, de nouveau, je ne sais pas pourquoi, parce que ça allait être de nouveau une mort brève, violente, mais brève, je me suis dit, bon, tant pis, c'est fini, qu'est-ce que je peux faire de toute façon? Et je me suis dit surtout, enfin, j'ai toujours cette peur de surtout pas perdre sa dignité, toujours rester de sang-froid.
Je crois que ce qui est très frappant dans le témoignage de Marie-Josée Burnier, c'est cette force qu'elle émane tout en parlant de ce qui lui est arrivé, ces événements si graves. Et ce qui m'a beaucoup frappée, moi en tout cas, c'est la force qu'elle tire de l'expérience, d'autres expériences, pas forcément les siennes, mais de choses qu'elle a vues. Quand elle dit par exemple que, bon, ce qu'elle a vu au cinéma qui lui montre que chaque fois c'est le plus faible sur lequel on tape, on frappe, bon, ça peut être du cinéma, mais n'empêche que ça lui fait dire il faut que je sois digne, comme ça ils auront du respect pour moi, ils ne me, si je pleure pas, si je me conduis pas, si j'ai pas l'air d'être si faible, eh bien ils me respecteront. Ou bien lorsqu'il dit, quand elle arrive dans le camp où elle sait qu'il va y avoir plein d'hommes et qu'elle elle a tout à coup cette peur du viol bien compréhensible, eh bien, elle se prépare et elle se dit « je ne me ferai pas atteindre, je ne veux pas que ça me touche, je ne veux pas que je sois traumatisée pour le restant de mes jours ». Elle pense à tous ces autres témoignages qu'elle a elle-même entendus de femmes ou de gens qui ont été atteints très longtemps ensuite par des choses qu'on leur a fait subir et elle ne veut pas être atteinte pour ça. Et ça, je trouve extrêmement impressionnant la façon dont elle a su capitaliser en quelque sorte l'expérience des autres pour lui donner de l'énergie. Et par rapport à tout ce qu'on a pu discuter entre femmes, par exemple, de cette peur du viol, je pense que c'est un enseignement très très fort que nous transmet là Marie-Josée Burnier. Alors là maintenant, nous allons évoquer avec elle la deuxième mission, celle du Mozambique, qui finira beaucoup plus tragiquement pour elle que la mission de l'Angola, puisque comme elle nous l'a dit, elle sera finalement libérée. Et cette expérience ne l'empêchera pas du tout de repartir. Alors elle aura d'autres missions, elle va partir à Timor-Est et puis ensuite elle part au Mozambique, où comme elle nous l'a dit tout à l'heure, elle avait déjà quelques appréhensions, mais sans très bien savoir pourquoi. On ne peut pas toujours traduire ce que l'on ressent. Alors elle va partir au Mozambique et là, elle va se trouver dans un avion sur lequel des soldats vont tirer. Alors cet avion, en l'occurrence, elle le prenait tous les jours puisque où elle se trouvait au Mozambique, il n'y avait pas d'autre moyen de transport pour aller rapidement d'un endroit à un autre dans leur mission, leur travail d'infirmière et de médecin que celui de l'avion. Alors chaque fois qu'elle prend cet avion tous les jours, est-ce qu'elle pense qu'il pourrait lui arriver quelque chose ?
Bien sûr qu'on y pense, mais c'est assez bizarre parce qu'en fait, ma peur au Mozambique était plutôt quand on atterrissait. C'est-à-dire au moment où on atterrissait, c'était très souvent des champs, en fait, un champ qui avait été fauché et qui était bien entendu entouré de buissons ou de hautes herbes. Et j'avais toujours l'impression, quand on atterrissait, que des guerriers allaient sortir des hautes herbes. En fait, parce que je le reliais à ce que j'avais vécu en Angola. Et en Angola, en fait, j'avais jamais pensé à une embuscade, mais on avait très peur des mines. Donc chaque fois, en fait, on... En fait, le risque était plus au moment où on atterrissait. Mais une fois qu'on était en vol, il y avait quand même peu de risques.
Et c'est bien comme ça que ça s'est passé. Effectivement, on vous a tiré dessus au moment où vous étiez en train d'atterrir.
Oui, exactement.
Alors là, bon, l'avion, tout comme la voiture,
ben, de nouveau,
on tire dessus.
Ouais, de nouveau, c'est la même chose. Sur le moment, il y a eu un bruit bizarre. On avait l'impression qu'il y avait du gravier dans l'hélice de l'avion. Et il a fallu quelques secondes, enfin peut-être pas autant, je sais pas. Enfin, après, ça paraît assez long pour se rendre compte qu'on nous tirait dessus. Et surtout, tout d'un coup, moi j'étais en jambes nues, j'étais en jupe, j'ai vu mes blessures s'ouvrir, enfin mes jambes s'ouvrir. Et là, mais je vous dis, c'est aussi fou parce que on voit ça, puis il semble qu'on est spectateur de ce qui se passe. On se sent pas tellement là-dedans, c'est irréel et ça se passe très vite, puis à la fois c'est très lent et on dirait que le temps s'arrête. C'est une impression vraiment particulière. Et bon, à ce moment-là, l'avion est remonté, donc dès qu'on s'est rendu compte qu'on nous tirait dessus, mais bon, le pilote était blessé, moi j'étais blessée. Et le pilote était un très jeune homme, qui travaillait pour la première fois dans un pays en guerre. Et quand il a vu mes blessures, parce que la sienne, c'était au bras, au début, on l'a pas vu tout de suite. Et il a paniqué. Enfin, quand il a vu mes blessures, je me suis dit, bon, il va tomber dans les pommes, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire, moi?
Bon, parce que vous étiez que les deux dans la cabine.
On n'était que les deux. Oui, c'était un petit avion de 6 places. On n'était que les deux. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus bouger son bras. Il était paralysé, son bras droit, et que ça saignait beaucoup. Et moi, j'étais assise à sa droite, donc je lui ai pris le bras, j'ai fait garrot sur sa blessure pour qu'il arrête de saigner. Et je l'ai cramponné comme ça, et je lui ai dit, maintenant, il faut qu'on tienne le coup. On avait une demi-heure de vol à faire pour retrouver notre délégation, puis atterrir dans des conditions de sécurité. Et à ce moment-là, pour moi, c'était le plus important, c'était qu'on arrive là-bas et que le pilote ne panique pas. Parce que s'il paniquait, c'était fini. J'aurais pu probablement tenir l'avion en vol, mais j'étais incapable d'atterrir. Et en fait, ça m'a aidée, c'est de tenir ce bras, et je me suis crispée sur son bras comme ça. Ça m'a aidée à la fois moi-même à pas m'évanouir, parce qu'à un moment, bon, au bout d'un moment, c'était horrible. Je me disais, mais pourquoi de nouveau moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, c'était de nouveau, ça paraissait irréel. Et je sentais le sang qui coulait. Enfin, je ne savais pas très bien quelle blessure j'avais encore. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Et cette demi-heure a été extrêmement longue. Mais avec toujours cette pensée qu'il faut tenir. Là, ce n'est plus la peur, c'est l'instinct de survie, je crois simplement.
À ce moment-là, la peur, donc, elle a eu effet sur vous de, en fait, quelque sorte, décupler l'énergie et pas du tout de vous paralyser, quoi.
Oui.
On a tout à coup une force surhumaine, enfin, de résister à la douleur, à la peur.
La douleur, il y avait pas grand-chose. Je vous dis, c'est vraiment très bizarre. Au départ, peut-être que ça fait déjà mal, mais on allait se préoccuper par tellement, justement, par survivre ou par tellement d'autres choses que c'est pas ça qui frappe. Enfin, c'est pas vraiment douloureux.
Et comme vous disiez, la peur de l'autre, qui apparemment était très grande à ce moment-là, au point de faire perdre les pédales, ça a décuplé la vôtre,
ah oui.
En disant « je dois compenser la sienne ».
Oui. Non, puis c'était pour ma survie aussi, parce que je me rendais compte que si il pouvait plus piloter, l'avion tombait et c'était fini. Donc, on n'avait vraiment pas le choix. Et en fait, après, en arrivant au-dessus de l'aéroport, bon, comme le pilote n'arrivait plus à bouger son bras droit, il m'a dit, il faut que tu m'aides à faire les manœuvres d'atterrissage, parce que c'est un avion qui a une partie des appareils entre les deux sièges presque. Et à ce moment-là, bon, j'ai pas eu peur. Enfin, c'était la continuation de ce qui venait de se passer. Et il m'a dit ce qu'il fallait faire, et je l'ai fait, on atterrit comme ça. Et voilà.
Vous avez l'impression qu'il reste un rapprochement entre cette personne et vous à cause de la peur partagée?
Non, ça c'est quelque chose aussi qui est très étrange. J'avais l'impression que des événements de ce type, comme ceux de l'Angola par exemple, devaient beaucoup rapprocher les gens. Puis je me suis rendu compte que, bon, peut-être que si c'est quelqu'un avec qui on est très proche au départ et qu'on vit une situation comme ça, probablement que ça rapproche encore les liens. Mais dans les deux cas, que ce soit l'Angola ou le Mozambique, j'ai pas eu des liens particulièrement proches avec ces personnes. Ça m'a beaucoup frappée en Angola parce que j'ai vécu en fait 2 mois avec des autres prisonniers et j'ai l'impression qu'il devait y avoir une solidarité, enfin une espèce d'atmosphère très particulière, et pas du tout. Pas du tout, au contraire, il y avait des disputes. Bon, puis des fois même on s'ignorait alors qu'on vivait tout près les uns des autres. Et, bon, on essayait de vivre dans une bonne atmosphère, on y arrivait la plupart du temps, mais ça n'a pas créé des liens forts comme je le pensais. Et avec le pilote non plus, bon, on s'est très peu vu après parce que j'ai été évacuée, mais il a passé en Suisse une année et demie après. On s'est revus et tout, mais je sais pas, c'était... Ça ne m'a pas fait plus d'impression que si j'avais vu un délégué avec qui j'avais travaillé. Ou... Il ne s'est pas créé quelque chose de particulier.
La chanteuse que vous entendez, c'est Cécile Kairebwa, qui est une chanteuse rwandaise. Alors, Marie-Josée Burnier nous a confié toutes ses craintes face à ces événements terribles qu'elle a dû vivre et auxquels elle s'est confrontée, cette peur de la mort, cette peur de la souffrance. Et puis, après les événements du Mozambique, eh bien, comme elle nous l'a dit, elle se fera évacuer, rentrer en Suisse et elle sera hospitalisée pendant 6 mois, subissant de nombreuses opérations à cause des blessures qu'elle a subies aux jambes. Et alors, je me suis demandé si à ce moment-là ne surgit pas une autre peur, une nouvelle peur, qui est celle non pas de mourir, mais qui est celle d'être handicapée. Marie-Josée Burnier.
Bon, quand je suis arrivée en Suisse, en fait, j'avais des douleurs extrêmement fortes qui ont duré plus de 5 mois. Et je crois que la douleur, en fait, a submergé la peur. Enfin, je me souviens pas d'avoir eu peur, mais tellement mal tout le temps que finalement, il n'y avait plus que ça qui occupait ma vie. C'était la douleur, la douleur, la douleur. Et quand elle a commencé à diminuer, c'était cette volonté de vouloir s'en sortir. Mais j'ai plus de peur. Il me semble pas. J'ai eu des peurs à l'hôpital, j'ai commencé à faire des cauchemars la nuit ou des choses comme ça, bon, ce qui est normal quand on a vécu un attentat, mais je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'a poursuivi. Par contre, maintenant, ou depuis ces deux événements, par exemple, j'évite tous les films de guerre. Enfin, j'avais été en voir un, je crois, une année et demie ou deux ans après le Mozambique. Et je me suis rendu compte que ça m'était absolument insupportable. Des coups de feu dans un film ou comme ça me fait sursauter, mais de manière beaucoup plus que la normale. Et même, par exemple, si quelqu'un vient derrière moi et me met la main sur l'épaule, en général, je sursaute beaucoup plus qu'avant. Bon, c'est les petites choses. Mais sinon, j'ai plus eu vraiment de peur, si on peut dire. Finalement, si vous voulez, en tout cas, avec l'Angola, ça avait été très positif comme expérience, au bout du compte. J'entends globalement. Le Mozambique, ça a été extrêmement dur. Mais globalement, je crois que j'en ai tiré beaucoup aussi. Et que j'ai réussi à dépasser la peur. Et pour moi aussi, ça reste une expérience de vie. J'aimerais pas la revivre, c'est sûr, mais je ne regrette pas rien de ce qui s'est passé.
Comme vous aviez, en Angola et au Mozambique, surtout, vous disiez, la peur de souffrir. Or, finalement, vous avez aussi beaucoup vécu cette souffrance, surtout dans ce deuxième événement. Est-ce que ça aussi, c'est une expérience qui a transformé votre appréhension de la souffrance? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais imaginer comment ce sera, et finalement, ce n'est pas cette souffrance-là qui permet d'anticiper une autre souffrance?
Bon, je dirais qu'il y a... Enfin, je ne sais pas si on peut séparer les types de souffrances, mais ce que je redoutais avant de partir, c'était la souffrance de torture, qui pour moi me semble vraiment intolérable et qu'il ne me semble pas du tout pouvoir supporter. Alors que ce que j'ai vécu à l'hôpital, c'était une souffrance qui était due à ma blessure. Et bon, c'est sûr que c'est quelque chose d'affreux, d'indescriptible, qui remplit vraiment. On n'arrive plus à faire autre chose ni à penser à autre chose que cette souffrance. Ça nous remplit complètement. Mais je sais pas comment dire. C'est pas. Enfin, quand on est dedans, on peut plus la craindre. Enfin, il n'y a plus que ça qui existe. Et maintenant, c'est vrai que, par exemple, cette année, je dois resubir une opération suite à cet accident du Mozambique. Et c'est vrai que j'ai peur, ma crainte, c'est de me réveiller de l'opération en ayant cette même douleur. Mais disons que c'est une peur qui est beaucoup plus contrôlée, je dirais que c'est plutôt une appréhension qu'une peur. Une peur, ça me semble trop fort comme mot. Mais par exemple, je me rends compte maintenant aussi, que c'est aussi après le Mozambique, que sur la route, comme passagère, j'ai beaucoup plus peur. Et que je ne conduis pas, alors... Mais j'appréhende beaucoup plus, enfin, il me semble que je vois plus le danger. Peut-être parce que j'ai vu ce qu'il y avait derrière. Il y a le danger, puis s'il y a un accident, tout ce qui se passe, et que c'est vraiment dur à supporter souvent.
Tous ces événements qui ont vraiment quand même sacrément bouleversé votre existence, est-ce que ça a aussi bouleversé votre existence dans le sens que ça vous a fait faire d'autres choix? Par exemple, vous avez, je crois, décidé d'arrêter de travailler au CICR. Est-ce que c'est ces événements qui ont, entre autres, influencé votre choix?
En partie, même en grande partie, il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'après le Mozambique, j'ai quand même été hospitalisée plusieurs mois. J'ai eu une rééducation pendant une année et demie. Et à l'époque, bon, j'étais partie au Mozambique pendant les vacances universitaires. Donc, j'ai fini mes études à l'Institut d'études du développement. Et après, l'Institut m'a proposé de devenir assistante. Et à ce moment-là, mon état de santé était vraiment pas très bon encore. J'étais en pleine rééducation. Et comme je suis infirmière, je me voyais pas du tout retourner dans un hôpital où il faut être sur les jambes toute la journée. Et je me suis dit, bon, c'est vraiment une occasion unique, il faut profiter. Donc, je suis restée là, et bon, aussi parce que ça m'intéressait, hein, c'était quand même un travail en relation avec le tiers-monde, ce qui me permettait de profiter de mes expériences, mais dans un environnement plus favorable, et avec surtout, si je devais retourner en Afrique ou dans le tiers-monde, dans d'autres conditions qu'avec le CICR. Bon, l'autre raison, c'est que bon, le CICR, c'est toujours un travail qui me passionne, et quand j'en entends parler, ça me fait toujours quelque chose. Mais je me suis rendu compte que je crois que je ne supporterais plus d'arriver dans un pays en guerre. Enfin, j'imagine, après avoir vu la réaction que j'ai eue sur un film de guerre, j'imagine que c'est pas, enfin, je supporterais pas d'entendre des bombardements ou des coups de feu dans un pays en guerre. Et donc, dans ces cas-là, je trouve qu'il vaut mieux arrêter, parce que le CICR, c'est que ça. Et en plus, après deux événements aussi graves que j'ai vécu au CICR, on dit qu'il n'y a jamais 203, donc je préfère arrêter avant.
Mais est-ce que dans le comportement aussi de la vie de tous les jours, est-ce que ça a aussi modifié certaines attitudes? Est-ce que ça vous a dirigé dans certains choix
de vie, outre l'aspect professionnel.
Peut-être que ça m'a fait plus réfléchir sur moi-même. Donc avant, j'avais l'impression que je vivais beaucoup plus par rapport aux autres, où je me laissais entraîner par des choses sans vraiment réfléchir aux conséquences que ça pouvait avoir sur moi. Et bon, le séjour en Angola m'avait fait pas mal réfléchir, parce que j'avais que ça à faire, c'est de réfléchir un peu sur ma vie, sur ce que j'avais fait jusqu'à à cette époque, sur ce que j'allais faire à l'avenir, etc. Ce que j'ai vécu après le Mozambique, c'est quand même une expérience. Excusez-moi, c'est quand même une expérience qui marque beaucoup. La souffrance est vraiment, je pense, une expérience qui mûrit. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que il me semble que je suis plus sereine face à ce qui se passe, mais plus aussi plus responsable, je dirais. Je choisis plus en fonction de moi. Et bon, par exemple, par rapport à la douleur aussi, je pense que je vais recommencer à travailler avec les gens qui souffrent de douleur ou les gens qui sont en fin de vie. C'est parce que je me sens maintenant beaucoup plus prête de ce côté-là.
Oh, yeah.